Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Billy Ivan Lutumba. En ce week-end, le cap de l'actualité sur Radio Okapi, c'est sur cette fin de campagne et la tenue des opérations de vote dès demain dimanche. Et tous de suite, en ouverture de ce journal, nous parlons des aspects sécuritaires de ces élections législatives nationales, provinciales et communales dans le territoire de Massimanimba, dans le Kwilu, et aussi dans Yakoma, Norubangui, avec notre envoyé spécial à Massi, Blaise Makassi. Deuxième aspect qui fait l'actualité ce samedi sur Radio Okapi, c'est cette clôture des états généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Des défis majeurs sont relevés et des orientations, notamment celles de rendre les entreprises congolaises financièrement autonomes. Jean-Paul Moukadi, expert en planification de développement au ministère du Plan, nous parle du plan d'action de développement pour la période de 2025 à 2029 pour la province de l'Ituri. Il est invité de ce journal. À présent, nous vous déroulons les autres aspects et contours du journal de ce soir sur Radio Okapi. Mesdames et messieurs à l'écoute, bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bonsoir. Élections législatives nationales, provinciales et communales dans le territoire de Massimanimba dans le Kwilu et Yakoma dans le Nord Ubangui, c'est pour demain dimanche. Dans la province du Kwilu, la commissaire divisionnaire adjointe d'Angèle Yambonga appelle les policiers qui vont assurer la sécurité des élections à la discipline et à empêcher tout désordre. Elle appelle ainsi la police à faciliter la tâche à la population qui ira voter, à respecter les consignes, à ne pas se livrer à des tracasseries et ne pas céder à la provocation. Elle l'a dit au cours d'une parade organisée à l'intention des policiers déployés pour sécuriser les élections. La commissaire divisionnaire adjointe Angèle Yambonga est au micro de Blaise Makassi.
Vous savez, nous, la police, dès par notre mission ordinaire, nous sommes là pour la protection de la population et leurs biens. Et pour le moment, c'est une mission spéciale pour la reprise des élections sur le territoire de Massimanimba. Alors, nous sommes là pour sécuriser les électeurs, donc notre population de Massimanimba, pour accéder à leur centre de vote pour voter librement, sans inquiétude. Notre population doit être à l'aise, qu'elle ait confiance à leur police. Nous sommes là pour toute la population de Massimanimba, pour les sécuriser, pour que la population vote dans le calme, qu'elle ne soit pas inquiétée. Leur police est là pour leur sécurisation.
Pendant ce temps, dans le Congo central, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Territoire et Affaires coutumières vient d'être révoqué de ses fonctions. Ces décisions contenues dans un arrêté provincial signé hier vendredi par le gouverneur de province. Il lui est reproché des graves violations des droits humains. Selon l'arrêté, Constant Mambindila Ndomanuel est commanditaire des actes de torture et de traitement inhumain sur un citoyen à Kilaou, localité située dans le territoire de Mbanzangongo. Le point avec n'en a plus richement beau.
Cette révocation part d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle le ministre provincial de l'Intérieur, Constant Mavidila, ordonnait à un homme de son équipe de fouetter publiquement un père de famille. Cette scène choquante et humiliante ayant plongé les habitants du Congo central et autres observateurs dans l'indignation s'est déroulée dans le village Kilaou en territoire de Mbanzangungu. L'Assemblée provinciale du Congo central qui a condamné les traitements cruels ordonnés par une autorité publique a, à l'issue d'une plénière ce vendredi, demandé au gouverneur présent dans la plénière de révoquer ses ministres pour ce que cette institution qualifie d'atteinte grave aux droits fondamentaux. En effet, la victime de la torture a été reprochée des ventes illicites de nombreux hectares de terre aux personnes suspectes venues de la partie est du pays. De ces faits, séance tenante, la plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central a adopté un moratoire suspendant la vente des terres sur l'ensemble de la province. Cette décision fait suite à une motion incidentielle introduite par les députés provinciaux à Tumatubwana, dans laquelle il a plaidé pour la mise en place d'une mesure d'urgence face aux préoccupations croissantes liées à la gestion foncière dans la province. Matadi, Nana Plus Riche Mambu, Radio Okapi.
Actualité parlementaire, le Sénat a adopté à l'unanimité hier vendredi le budget de la République pour l'exercice 2025. Ce budget est votés en des termes divergents. Celui voté à l'Assemblée nationale et une commission paritaire mixte s'est réunie ce samedi pour harmoniser les vues. Après examen approfondi pendant 10 jours, le Sénat a revu à la hausse les recettes budgétaires à plus de 418 milliards de francs congolais sur les 51 133,6 milliards de francs congolais de l'enveloppe globale votée à la Chambre basse du Parlement. Pour en savoir davantage, Michel Kifindangoy.
Voté à l'Assemblée nationale à la hauteur de plus de 51 000 milliards de francs congolais, le budget 2025 est revu à la hausse par le Sénat avec une enveloppe supplémentaire de 418 milliards de francs congolais. En effet, le Sénat a identifié une ligne des recettes au niveau de la DGRAD qui n'a pas été prise en compte par l'Assemblée nationale, explique les rapporteurs de la commission ECOFIN du Sénat. Pour Vicky Katoumoua, l'Assemblée nationale a estimé que le recouvrement de cette taxe par la DGRAD exige le vote d'une loi, alors que le Sénat estime qu'un simple règlement suffit pour que la DGRAD soit autorisée à recouvrer la taxe. Du côté des dépenses, le Sénat a mis l'accent sur la rétrocession des 40% aux provinces, qui n'est pas encore totalement effective. Une paritaire se tient ce samedi entre les deux chambres du Parlement. En cas de divergence persistante, l'Assemblée national statue définitivement, conformément à l'article 135 de la Constitution. Elle votera à cet effet une version finale du budget 2025 qui pourra prendre en compte ou pas les observations du Sénat avant de l'envoyer au président de la République pour promulgation.
Actualité parlementaire au niveau provincial. Dans le Maniema, après avoir passé 3 ans sans budget, ce vendredi 13 décembre, cette province vient de se doter de son propre budget pour l'exercice 2025. Ce budget est adopté après un débat houleux à l'Assemblée provinciale. Évalué à plus de 406 milliards de francs congolais, il se fixe comme priorité, entre autres, la réhabilitation des routes. Florence Kizalunga nous en dit plus.
L'adoption de ces budgets enchante la population. Le bureau des inspecteurs de droits de l'homme attend sa matérialisation. Crispin Muyololo.
Vraiment pour nous c'est une joie parce que tout ce que nous pensons comme population se résume dans les budgets de l'État. Et les budgets ici présentés, adoptés, reflètent l'image de la population.
Du côté de l'Assemblée provinciale, on promet un suivi permanent. Docteur Papi Omeonga, le rapporteur.
Tous les députés, nous allons faire le suivi régulier et même nous allons tout faire pour que la DGMA puisse mobiliser les fonds nécessaires pour que ce budget soit réalisé comme il a été prévu.
Le gouverneur, lui, appelle à l'implication de tous. Moussa Kabankoubi Moïse.
Si nous avons présenté ce budget, l'une des caractéristiques fondamentales du budget, c'est la sincérité budgétaire. Donc quand on présente les chiffres doivent être sincères. Nous avons les moyens parce que nous avons les taxes conventionnelles. Nous allons digitaliser la perception des recettes. Les recettes de la province vont augmenter et nous sommes convaincus que nous allons réaliser tous les projets que nous avons annoncés.
Sachez que le Maniema a eu son dernier budget en 2021 avec le gouverneur Moussafiri Nkola Mioma. Kindo, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Nous parlons à présent de cette clôture ce samedi des états généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Dans son allocution à cette occasion, la première ministre qui a représenté le chef de l'État a souligné que l'un des défis majeurs est de rendre les entreprises congolaises financièrement autonomes. On écoute Judith Souminois au micro de Alain Hirong Mchinj.
La réforme de la gouvernance des entreprises publiques a été l'un des points essentiels de ces états généraux. Il est apparu clairement que pour que ces entreprises deviennent des moteurs de développement, elles doivent impérativement être dotées de mécanismes de gouvernance solides et transparents. La révision des structures de gouvernance a été largement recommandée avec la mise en place de conseils d'administration compétents et indépendants en mesure de gérer les entreprises publiques avec responsabilité et efficacité. L'un des défis majeurs a été de rendre nos entreprises publiques financièrement autonomes en générant des revenus propres. La rentabilité a été identifiée comme une priorité. Les recommandations ont porté sur la mise en place de modèles économiques rentables et l'élargissement des sources de financement par un encadrement des partenaires stratégiques. En effet, les partenariats devront être repensés afin de favoriser des retombées économiques et sociales durables pour la population congolaise. L'objectif est de maximiser la valeur ajoutée des ressources naturelles et de garantir que les bénéfices soient équitablement partagés entre l'État, les entreprises et les communautés locales.
Nous poursuivrons avec l'actualité sur Radio Okapi. L'association Dignité Humaine a lancé vendredi à Kinshasa la campagne d'éveil de conscience des Congolais contre les antivaleurs, notamment la corruption, le banditisme urbain, la xénophobie, le tribalisme et l'égoïsme. Selon la coordonnatrice de cette association, ce programme qui est appuyé par la GIZ, Coopération internationale allemande, s'inscrit dans le cadre du projet Tofungolamiso, entendez ouvrant les yeux à travers le projet de lutte contre la corruption et les flux illicites en RDC. Elodine Tamuzinda interpelle tous les Congolais en général à prendre conscience pour lutter contre les antivaleurs qui gangrènent la RDC et freinent ainsi son développement. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous avons tellement d'antivaleurs dans toutes les provinces que nous sommes interpellés à tous les niveaux. Il y a la barbarie urbaine. Ici, nous sommes en train de parler de Kuluna, par exemple. Nous parlons même de la corruption qui gangrène à notre population. Nous corrompons à tout moment, à tout bout de champ. Nous ne pouvons rien faire pour ne pas poser la question qu'est-ce que nous gagnons et au moment où nous savons que nous travaillons pour notre pays. Tout ça, ce sont des antivaleurs et donc c'est chaque institution qui est appelée à jouer son rôle pour accompagner notre société et notre pays, notre nation, à être debout. C'est tout le monde qui est interpellé, la population, la société civile, les églises, les secteurs privés, les autorités, toutes les institutions. Nous tous ensemble, c'est nous qui formons la nation congolaise. Ça, c'est une thématique qui fait assez que notre pays reste toujours à la traîne. Et nous nous posons la question, pourquoi les investisseurs n'arrivent pas? Ils vont venir où, là où la zone est rouge, clignotant rouge, en ce qui concerne la corruption, la mauvaise gouvernance et autres.
Selon Elodie Tamuzinda, ce projet sera réalisé dans 6 provinces pilotes en attendant le financement d'autres bailleurs de fonds pour l'étendre dans toute la RDC. Il s'agit de Kinshasa, Congo central, Lualaba, Katanga, Nord et Sud Kivu. Puisque nous parlons du Nord Kivu, les combats entre les FARDC et M23 ont repris samedi aux environs de 11h locales à Kassé, une localité stratégique partagée entre l'armée et les rebelles qui constituait un passage vers la commune rurale de Kirumba située à 25 km plus loin dans le sud du territoire de Lubero. Cette reprise survient après une accalmie observée vendredi sur différentes lignes de front dans la zone. Selon des sources sécuritaires et locales, des échanges des tirs d'artillerie lourde se déroulent dans un endroit connu sous le nom de Trois Antennes où la situation reste tendue. En revanche, sur d'autres lignes de front, aucun combat n'a été signalé. Les positions n'ont pas changé. Les villages de Matembe et Luofu demeurent sous le contrôle des FARDC. Dans la même région et toujours dans le Nord Kivu, la société civile de la chefferie de Chalimokoto dans le territoire de Masisi dénonce l'octroi des actes de naissance et certificats de mariage aux personnes qu'elle qualifie des inconnus. Cet acte serait commis par un officier de l'état civil resté à Mueso, une localité sous occupation rebelle. Acte qui, selon ses structures citoyennes, va à l'encontre des lois de la République. Tobi Luako exprime sa crainte que ce comportement soit à l'origine des tensions intercommunautaires dans cette chefferie dans les prochains jours. On écoute Tobi Luako Kahango Tobi qui exprime sa crainte. Il est joint au téléphone par Denis Lukeso.
Dans le territoire de Gungu, depuis ce matin, aucun véhicule n'est arrivé au chef-lieu du territoire de Gungu, ni véhicule qui est sorti vers Kikwiti. Motif, l'axe routier Bachamba sur la nationale numéro 1, jusqu'au niveau du chef-lieu du territoire qui mène vers Kakobola, donc une route d'intérêt provincial. Cette route devient de plus en plus impraticable à cause de pluies abondantes de ces jours. Et un gros véhicule marque Hero qui quittait Kaemba pour aller à Kikwiti avec beaucoup de filles de carburant à bord. Il s'est renversé sur la rive gauche du pont Kulu et comme la route est encaissée, le véhicule a bloqué tous les passages et plus de 15 véhicules sont stationnés sur la rive droite du pont Kulu et plus de 10 véhicules sont stationnés sur la rive gauche du pont Kulu. C'est pour cette raison que nous sommes en train de plaider pour que le gouvernement national puisse décaisser les moyens au plus vite que possible pour réhabiliter la route. Le gouvernement provincial ne saura pas, même les produits de première nécessité dans les territoires de Gungu, à l'équilibre, ne peut pas nous atteindre. Il faut des solutions urgentes pour sauver la vie des gens.
Actualité internationale.
L'agenda politique prévoit des élections dans plusieurs pays d'Afrique centrale. Entre scrutin législatif et présidentiel, le calendrier électoral doit s'étendre jusqu'en 2026 dans cette partie du continent. Le sujet a été évoqué par le représentant spécial secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale vendredi au Conseil de sécurité. Abdou Habari plaide pour des élections libres, inclusives et pacifiques.
Le 29 décembre, le Tchad achèvera sa transition politique par des élections législatives provinciales et locales. Et par ailleurs, le Burundi, Cameroun, Gabon et République centrafricaine organiseront des élections législatives ou présidentielles en 2025, tandis que le Congo et Sao Tomé et Principe s'achemineront vers des élections présidentielles en 2026. Et puis, le Rwanda veut organiser un Grand Prix des Formule 1. C'est le président Paul Kagame qui a présidé officiellement la candidature de son pays vendredi. Kigali a abrité le 13 décembre l'Assemblée générale annuelle de la Fédération internationale automobile, FIA, ainsi que la cérémonie remise des prix de la FIA. Max Verstappen, Charles Leclerc et autres, le gratin de la Formule 1, s'étaient donc donné rendez-vous dans la capitale rwandaise pour la circonstance, une première pour le continent, alors que l'événement a 120 ans.
L'invité.
La province de l'Ituri dispose d'un plan d'action de développement pour la période 2025 à 2029. Ce document, élaboré par des experts de plusieurs services étatiques, des organisations humanitaires et des agences du système des Nations Unies, c'est le mardi dernier, 10 novembre, qu'il a été validé par les différents partenaires de mise en œuvre au cours d'une plénière organisée à Bounia. Jean-Paul Moukadi, expert en planification de développement au ministère du Plan et facilitateur lors de cet atelier, revient sur l'essentiel de ce programme. Il s'entretient avec Jean-Claude Lokidilet.
Jean-Paul Moukadi, bonjour.
Bonjour, monsieur.
La province de l'Ituri sera dotée d'un plan d'action de développement. De quoi s'agit-il concrètement?
Le plan d'action de développement, d'ailleurs, pourrait commencer depuis que l'Ituri existe. Depuis le district et jusqu'à la province, n'avait pas eu encore un document stratégique pour le développement de la province. Et c'est le tout premier document. Et c'est le document stratégique de la province, ça va les aider quand même à avancer, à booster et puis à tailler le chemin de développement de la province.
Donc c'est un document, vous dites, stratégique qui va aider la province d'avoir une vision de son développement durant les 5 ans, donc de 2025 à 2029.
Bien sûr, bien sûr. C'est un document qui va aider la province pendant les 5 ans d'avoir une vision de développement. Parce que dans ce document-là, tout est bien étalé. Il y a l'état des lieux, il y a la vision, il y a des stratégies, il y a aussi des actions à mener pendant les 5 ans.
Dans ce document qui a été élaboré pendant, vous l'avez dit, 17 jours par une équipe d'experts réunis au sein du secrétariat technique, quelles sont les priorités pour l'Ituri, par exemple? Parce qu'on sait que, c'est vrai, il y a plusieurs priorités. L'Ituri fait face à plusieurs défis, notamment sécuritaires, qui a un impact négatif sur aussi la situation humanitaire. Sinon, quelles sont les quelques priorités pour l'Ituri?
Quelques priorités pour l'Ituri, d'abord, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Et après la sécurité, on a tiré aussi l'attention sur l'aspect humanitaire. Parce que le contexte à Ituri, c'est le contexte actuel, c'est la sécurité et humanitaire.
Et qu'est-ce qui est prévu concrètement justement dans ce secteur-là pour que l'Ituri trouve la paix et la stabilité?
Bien sûr, il y a des actions qu'on va amener. Et dans ces actions-là, ça va aider maintenant la province d'avancer et puis de trouver des solutions, de trouver des solutions durables.
Quelles actions, par exemple, une, deux, trois comme ça qui peuvent aider à sortir l'Ituri du gouffre, quoi?
Tel que renforcement de l'autorité de l'État. Renforcement de l'autorité de l'État, parce que vous savez, dans les contextes, dans les 5 territoires, il y a des territoires qui sont touchés par des mouvements, des insécurités, tout ça. Et quand on va restaurer l'autorité de l'État dans ces coins-là...
Par quel mécanisme vous allez faire, justement?
On va appliquer l'armée, il y aura aussi la police, il y aura aussi des concertations entre les habitants ou soit des tribus qui sont dans des coins respectifs, pour chercher quand même comment la paix peut revenir et la cohésion sociale.
Il me semble que c'est le prolongement de ce qui est déjà fait, notamment par le gouvernement central, mais aussi le gouvernement provincial, à travers les dialogues, à travers les rencontres intercommunautaires. C'est juste le prolongement de ce qui s'est fait déjà par les autorités en place.
Bien sûr, parce que même le plan qu'on vient d'élaborer, on n'a pas sorti dans la vision du gouverneur. Ou soit du gouvernement provincial. Et le gouvernement provincial aussi n'a pas sorti dans la vision des chefs de l'État.
Jean-Paul Mouka dit que la priorité pour l'Ituri, c'est le retour de la paix. Mais vous ne connaissez pas un chevauchement aussi avec d'autres projets, programmes, notamment le PDDCS, pour ne citer que cela, où il y a aussi d'autres partenaires, d'autres bailleurs de fonds.
Non, non, le document a été élaboré et aujourd'hui, ça sera validé par toutes les parties prenantes. C'est-à-dire toutes les parties ont contribué. C'est-à-dire les parties prenantes, ils ont travaillé. Et moi, j'étais là juste pour voir est-ce qu'il y a la cohérence. Et il n'y aura pas la contradiction. Comme je viens de vous dire que non, la vision du gouvernement provincial, d'ailleurs, je félicite en passant le gouverneur militaire, tout ce qu'il est en train de faire comme le travail pour restaurer la paix dans la province de l'Ituri est à cohérence avec la vision des chefs de l'État.
Mais j'imagine qu'un tel projet, programme ambitieux, est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport au coût total, c'est en termes de combien, estimé à combien?
627 millions pendant 5 ans.
Et d'où viendra ce fonds?
37% pour la province, 30% le gouvernement central, 20% les bailleurs, 13% à rechercher.
Jean-Paul Mokadi, je vous dis merci.
Merci à vous.
Alain Irung, Jacques-Yves Molima ont concouru avec la rédaction entière à la préparation de cette édition du journal. Jean-Noël Mokondo assuré la prise de son et la mise en onde et Billy Ivan Loutmov l'a présenté. Au nom de toute cette équipe, fidèles auditeurs, nous vous disons sincèrement merci.